Les ouvrages touristiques, les ouvrages d'art et d'images sur la région méridionale ne manquent pas sur les étals des libraires. Un parmi ceux-là vous est aujourd'hui présenté. Celui-ci est un livre engagé, un livre d'amour et de colère, comme le dit son éditeur sur la quatrième de couverture. J'ai le réel plaisir d'accueillir Philippe Vilmus, auteur de « Le Midi se meurt, sauvons-le ». Bonjour Philippe Vilmus.
Bonjour.
Alors, vous avez déjà écrit une vingtaine de livres avant celui-ci, Philippe Vilmus, et rien à voir avec notre région méridionale.
Bah oui, parce
vous
que
avez une autre vie avant ça.
Oui, j'ai une autre vie. Donc, je suis aussi professeur en sciences de gestion. Donc, mes livres sont soit des livres d'économie, soit des livres sur le sport, puisque je suis spécialisé aussi dans l'économie du sport, soit sur la gestion des entreprises. Mais je suis un enfant du Midi quand même, je suis né à Sète, je vis ici, ouais. Enfin, je suis revenu vivre ici et je suis très très attaché à cette région et comme je sens que ma région est en train de se dégrader, est en train presque de mourir dans certains de ses fondamentaux, j'ai eu envie d'écrire ce livre.
Oui, alors en effet ce livre Avant l'amour, avant la colère, c'est d'abord un livre sur l'émerveillement, votre émerveillement. Émerveillement, je vais y arriver, sur la région sétoise que vous, sur laquelle vous êtes revenu.
Oui, alors c'est un émerveillement aussi sur la région, non pas au sens administratif, on va dire le pays méditerranéen, enfin l'Hérault, les Pyrénées-Orientales aussi, puisque j'ai habité là-bas, en tout cas le pourtour méditerranéen. Je pense que c'est une région absolument fabuleuse sur le plan du patrimoine naturel, sur le plan du patrimoine culturel, sur le plan du patrimoine historique, sur le plan de ses traditions, de sa cuisine. Mais c'est pas moi seulement qui le dis, que c'est une région formidable parce que le monde entier nous envie, parce que je pense qu'on est dans une des régions les plus attractives au monde, qui a attiré les plus grands peintres, les plus grands poètes, les plus grands écrivains, les plus grands artistes, les plus grands vedettes de cinéma, les vedettes du show business, puis les milliardaires russes maintenant. Enfin, cette région est absolument extraordinaire. Elle est baignée par une des mers les plus fabuleuses au monde, qui est la mer méditerranéenne, qui est le berceau de la civilisation occidentale. C'est là qu'est né l'Occident, qu'est née la démocratie. C'est une région qui a une pression démographique, malheureusement, et touristique très très forte, qui subit de grands défis, dont on va sûrement parler maintenant.
Mmh. Alors, vous êtes dans ce livre-là très attaché à la place des mots et du vocabulaire. Votre choix de citations littéraires, d'ailleurs, je trouve, en témoigne. Vous puisez aussi votre source d'inspiration d'écriture, je trouve, dans différents auteurs, méridionaux ou pas seulement, d'ailleurs, mais certains d'entre eux le sont. Et le premier mot que vous allez nous préciser dans ce livre, c'est la notion du midi.
Oui, alors d'abord, ces références littéraires sont très importantes pour moi parce que j'adore la littérature. Et puis, comme disait Albert Camus, mal nommer des choses, c'est déjà contribuer au malheur du monde. Donc, il faut être précis sur les mots. Donc, le mot midi, en fait, a deux significations. Il a une signification spatiale, géographique. Le midi, c'est le sud de quelque chose. En vocabulaire français, on a quatre mots pour désigner l'espace, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais les synonymes stricto sensu de ces quatre mots sont septentrion, le nord, midi, le sud, occident, l'ouest et orient, l'est. Donc être dans le midi, c'est être dans le sud de quelque chose. Donc le midi, c'est de la France, c'est ce qui est au midi de la France. Et donc à Nice, on est dans le midi de la France, mais si on passe la frontière, on est dans le nord de l'Italie, puisque le mezzogiorno, le midi italien, c'est plutôt la botte italienne. Donc dans le midi, il y a une notion géographique, c'est le sud de quelque chose. Donc le midi de la France, c'est le sud de la France. Mais midi, c'est aussi une notion temporelle, puisque midi en latin, ça veut dire midies, c'est le milieu de la journée, c'est la 12e heure, c'est l'heure qui sépare le matin de l'après-midi, c'est aussi l'heure où le soleil est le plus haut dans le ciel et l'ombre la plus courte sur le sol. Et donc j'aime bien que dans le mot midi, on retrouve ces deux notions de temps qui fait référence au soleil quand il est à son point culminant et puis d'espace. Sachant, comme vous l'avez sûrement remarqué, qu'on utilise de moins en moins le mot midi, que ce soit la météo, dans les journaux télévisés, à la radio, on parle de sud maintenant, et à la météo on vous dit il va faire beau dans le sud, parce que le sud ça a une connotation un peu péjorative, négative. Le sud, d'un point de vue géopolitique, c'est les pays en voie de développement, les pays pauvres, les pays...
Alors vous pensez que c'est pour ça qu'on utilise ce terme ?
Oui, parce que je pense que perdure dans, dans la société française, un Nord industriel, actif, dynamique, et puis une France du Sud, paresseuse, crasseuse, et ouais. qui est un peu en décalage.
Alors en effet, dans votre livre, cela transparaît énormément, cette espèce d'opposition entre le parisianisme, le Nord, vous l'avez dit, industriel et travailleur, et le Midi. Est-ce que vous avez vraiment besoin pour votre argumentaire, pour démontrer que le Midi a besoin de se relever ou de le sauver, d'être dans cette opposition-là?
Mais cette opposition, ce n'est pas moi qui l'ai créée, elle est historique. Elle est historique puisque, à partir de l'an 1000, les Francs, ce qu'on appelle les Francs, qui ont envahi le Midi, qui l'ont ravagé, alors que le Midi, à cette époque, était une civilisation extrêmement raffinée, beaucoup plus raffinée que le nord de la France. C'est la France d'une. Donc les premières invasions ont ravagé le Midi. La preuve en est d'ailleurs que quand les Sarrasins se substituent aux Francs et libèrent Nîmes des Francs, ils sont accueillis en libérateurs. Parce que les Sarrasins ont une attitude beaucoup moins dure que les Francs. Et puis cette opposition historique, elle va se perpétuer jusqu'à l'édit de Villers-Cotterêts qui impose la langue d'oïl, la langue du Nord, et qui va tuer l'Occitanie, qui va éradiquer la langue romane, la vraie langue romane. Elle va se perpétuer jusque à la Révolution française, d'abord avec l'Ancien Régime, puisque l'Ancien Régime a lutté contre les provinces de l'Ancien Régime. Ce que je dis là n'est pas seulement valable pour le Midi de la France, c'est aussi valable pour la Bretagne, pour le Pays Basque, pour l'Alsace. Donc unique, en fait, dans l'histoire européenne, est le combat sanglant, cette guerre qui ne dit pas ce nom, que la capitale a menée contre les anciennes provinces de l'Ancien Régime. Et le point culminant va bien entendu être la Révolution française. Avec les Jacobins, on a vécu un moment très important pendant la Révolution française, c'est que deux visions de la France se sont opposées. Une vision girondine, donc des gens d'un autre Midi, du Midi atlantique, qui avaient une vision beaucoup plus tolérante, ouverte et de la diversité de la France. Malheureusement, les Girondins vont perdre la tête sur la guillotine sanglante des sans-culottes du Faubourg Saint-Antoine, et les Jacobins vont l'emporter. Et les Jacobins, jusqu'à aujourd'hui, vont imposer dans tout le pays une langue unique et vont réprimer férocement toute forme de diversité au nom d'une centralisation administrative, politique, judiciaire et économique qui continue à durer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la révolte de 1907, qui voit la révolte viticole des gens du Midi se lever, est réprimée dans le sang par Paris, puisque Georges Clemenceau, qui est le chef d'État de l'époque, envoie la troupe, des militaires, tirer sur son peuple. Et je dis souvent que quand un chef d'État utilise son armée, utilise sa police pour tirer contre son peuple, nous sommes en dictature. On en a des exemples encore aujourd'hui, mais un chef d'État est là pour protéger son peuple, pas pour tirer contre son peuple. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 14-18, on le sait maintenant, c'est quelque chose qui doit être dit, ce que l'on appelait les Provençaux, mais on incluait aussi les Catalans, les Languedociens, les Occitans, ont été souvent mis en première ligne à Verdun ou dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et les Provençaux, par rapport aux gens du Nord, c'est un fait historique, avaient droit à moins de soins hospitaliers, moins de vacances et moins de rations alimentaires. Mmh. Et ce mépris du sud de la France s'est perpétué jusqu'à la crise viticole de 76, où à Montredon-les-Corbières, malheureusement, des viticulteurs essaient d'arrêter un train de marchandises. La gendarmerie intervient. Donc là, on a fusil mitrailleur contre fusil de chasse. Un commandant de gendarmerie malheureusement tué. Un viticulteur est tué. Et en 1976, j'avais 15 ans, donc je ne vous parle pas du Moyen-Âge. 1976, Monsieur Bonnet, ministre de l'Agriculture, devant la seule chaîne publique de télévision, déclare « Ces gens du Midi qui crèvent ». Ces gens du Midi qui crèvent. On a du mal à imaginer aujourd'hui un Premier ministre qui dirait « Ces gens du Midi qui crèvent ».
Oui, donc
on est en 76, on n'est pas au Moyen-Âge. Et oui. Puis pour continuer cette opposition, je suis désolé d'être un peu volubile, mais c'est très important ça.
Pourtant, je voudrais quand même dire que cette opposition dont vous parlez là, dont vous témoignez à ce micro, n'est pas en permanence dans votre livre. Vous en parlez au début de l'histoire, quand vous évoquez, Clemenceau. Et puis, vous dites aussi quand même que ça change, ça évolue, et que ce n'est pas le seul... et que ce mépris-là, il est quand même contrebalancé par l'envie des Parisiens de venir dans le Midi passer des... passer des loisirs, aller au bord de la mer.
Oui, donc, parce que
ça change ça aussi.
Parce que je pense qu'il y a une double, chose. Il y a à la fois peut-être un mépris des gens du Nord vis-à-vis des gens du Sud, mais une admiration sans fin des gens du Nord et de l'Europe du Nord, j'allais dire des Américains, de la Chine, par rapport à ce pourtour méditerranéen français qui, je le répète,
donc sa nature,
pas seulement dans sa nature, dans son patrimoine historique, culturel, dans sa culture, dans sa façon de vivre, dans son banquet méditerranéen que nous envie une partie de la planète.
Alors malheureusement, vous dites aussi que ça devient une plaie, cette... Peut-être, est-ce que vous diriez, vous, invasion touristique ?
Non, alors, je n'ai pas utilisé le mot invasion touristique.
C'est vrai.
Et je pense que ce n'est pas la plaie principale. Si vous voulez qu'on parle des défis qui menacent la vie du Midi, et d'où le titre de ce livre, Midi se meurt, bon, je dirais d'abord, c'est le réchauffement climatique. Et je préférerais qu'on parle de ça. Et ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que le réchauffement climatique, ça ne concerne pas seulement les ours polaires, la Polynésie et le Groenland. C'est-à-dire, parce que si on leur dit que c'est que ça, les gens s'en foutent. Globalement, les gens sont égoïstes. Ils ne sont intéressés que par ce qui se passe près d'eux. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que la première région d'Europe qui est touchée aujourd'hui par le réchauffement climatique, dans les faits, c'est-à-dire qui est en train de se désertifier, sans eau, sans végétation, sans faune, qui devient un désert, c'est le sud-est de l'Espagne. Ça, c'est déjà plus parlant. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que la première région de France qui disparaîtra, d'un point de vue climatique, d'un point de vue biologique, faune, ça sera le pourtour méditerranéen français, c'est-à-dire cette bande de 50 km. Pourquoi ? Parce que 2 degrés de plus, ce n'est pas supportable à Perpignan, Montpellier, Narbonne, Béziers, Nice, Aix-en-Provence.
Donc de cela, les Parisiens n'en sont pas responsables.
Les Parisiens ne sont pas du tout responsables, là c'est l'humanité entière.
Ouais.
C'est les gens du Midi aussi qui maltraitent leur propre pays. Et là, il faut parler sur la responsabilité de nous, les gens du Midi, sur ce que l'on a fait de notre territoire. C'est-à-dire qu'en urbanisant à outrance, en bétonnant, en goudronnant, et là ça n'a rien à voir avec les Parisiens, en ne protégeant pas le littoral par des excès de corruption, de malversation, par une mauvaise gestion, une mauvaise vision de la politique, du territoire, par le déboisement des forêts endémiques et le remplacement par des pins, des arbres exotiques qui ne sont pas du Midi, on contribue au réchauffement climatique qui, je le répète, va détruire la Méditerranée, va détruire les zones lagunaires, va détruire la vigne, va détruire la végétation. Et comme nos cités, nos villages et notre urbanisme aujourd'hui n'est pas adapté à une montée des températures de 2 à 3 degrés, cette bande deviendra invivable. Les oliviers pousseront à Lyon, parce que le réchauffement climatique, c'est pas vraiment un défi pour Lille, Brest, les Pyrénées ou les Alpes. C'est surtout un défi majeur dans les 20 prochaines années, c'est-à-dire demain en fait, à l'échelle humaine, pour le pourtour méditerranéen. Et ça serait une catastrophe pour les écosystèmes méditerranéens de ne pas tout faire pour enrayer ce réchauffement climatique, et des solutions existent.
Voilà, vous évoquez... dans la fin de votre ouvrage, la volupté de la végétation du Midi, vous appelez à créer des jardins partagés, vous appelez à créer des espaces où on protège certaines espèces d'arbres. Tout cela doit se mettre en œuvre.
Oui, si vous voulez, en Turquie, vous avez 10 000 espèces végétales, en Espagne, 7 000, en Italie, 6 000, et dans tout le territoire français, métropolitain, vous en avez 5 000. Mais sur les 5 000, il y en a 2 500 qui bordent la Méditerranée sur 50 km. C'est-à-dire qu'il y a plus de végétation sur la bande littorale méditerranéenne de 50 km que dans toute la Scandinavie, l'Allemagne et le Pays-Bas réunis. Cet écosystème méditerranéen est extrêmement fragile et il faut le préserver. Alors j'en appelle pas vraiment aux élus, parce que je pense qu'aujourd'hui le monde qui change ne se fait pas via la politique, mais se fait via les réseaux sociaux, les associations et les bénévoles. Ne serait-ce d'ailleurs qu'au plan économique, là je reprends ma casquette de prof d'économie, il ne faut pas oublier que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont été créés par des jeunes de 22 ans qui n'avaient jamais fait d'études. Donc ce n'est pas les hommes, les politiques qui changent le monde. Ce qui change le monde, c'est les jeunes. C'est les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est les bénévoles. Et donc mon livre, c'est aussi un cri d'appel, pas pour les élus, parce que les élus, on s'en fout finalement. C'est pour la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous. Là, ça ne dépend ni de Paris, ni de Pape, ni du président de la République, ni de Donald Trump. Il faut, dans son jardin, ne pas planter de pelouse, parce que la pelouse ne pousse pas naturellement. Elle tue le sous-sol, elle demande de l'eau. Il faut arrêter de planter des pins, qui ne sont pas des arbres du Midi, contrairement à ce que l'on peut penser. Il faut arrêter de planter des arbres exotiques, des palmiers, parce que la nature nature se venge.
Donc là, ce sera votre prochain livre, voilà. Tout ça.
Et donc,
parce que là, vous en parlez juste un tout petit peu dans Midi Summer.
Et donc, il faut utiliser effectivement toutes les friches, tous les terrains pour planter des oliviers, des châtaigniers, des chênes, des arbousiers, des mimosas, des tamaris, qui sont de la végétation du Midi, pour lutter contre le réchauffement climatique, redonner de la couleur et redonner de la beauté, de l'esthétique à cette région qui est magnifique.
Je vous propose, Philippe Villemus, une pause musicale avec un homme toujours jeune, Gilbert Bécaud, Les Marchés de Provence.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé. S'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon cage de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'axa qui se promène et qui n'en finit. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau cage de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas.
Sur FM Plus 91 FM à Montpellier, Gilbert Bécaud, Les Marchés de Provence. Alors je suis avec Philippe Villemus, nous parlons de Midi Summer, sauvons-le. Et Gilbert Bécaud chante Les Marchés de Provence, mais sans accent. Ça vous embête, ça, Philippe Villemus?
Bah parce que non, c'est dommage, parce que l'accent, ça vient d'être cantum, ça vient de chanter. Donc bah oui, là aussi, ce que je dis est valable aussi pour la Bretagne ou les Alsaciens. C'est vrai que bah, le centralisme jacobin n'aime pas les accents. Je peux en témoigner, puisque moi je suis un vrai accent demi. Normalement, je parle comme ça quand je suis.
Ah oui, là,
mais je suis obligé de cacher mon accent, parce que je pense que je n'aurais pas fait la carrière professorale, économique, et je n'aurais pas réussi mes études. Vous ne pouvez pas, à l'oral d'HEC ou d'ENA, arriver avec un accent du midi à couper au couteau. Donc, il y a un certain mépris pour les accents. Mais c'est toujours... Ça participe
uniforme.
Toujours d'un phénomène de la haine de l'étranger, de l'autre, de la différence. On voudrait une monoculture, comme disait Claude Lévi-Strauss, qui est selon moi le chantre de la diversité et le plus grand penseur du XXe siècle. On veut éradiquer toute forme de différence.
C'est ça, et Louis XIV voulait une France catholique, toute catholique. Voilà. Ça se traduit aussi dans la langue.
Et donc, ça se traduit aussi dans la langue. Ça s'est traduit. Et c'est dommage, parce que la France est un des seuls pays, finalement, qui a lutté contre l'éradication des dialectes et des patois. On ne retrouve pas ce phénomène du tout en Espagne, du tout en Suisse, du tout en Allemagne, du tout en Italie, où on a su préserver des différences de nuances dans les langues régionales, alors que nous, non. Parce qu'on s'est dit, il faut d'abord apprendre à parler au français. Mais il ne faut jamais oublier que le français que nous parlons aujourd'hui, ce n'est qu'un dialecte qui a réussi. Il ne faut jamais oublier que la langue nationale d'un pays n'est que le dialecte qui a supplanté les autres. Mais une fois que ce dialecte national a été supplanté, puisqu'on empêche les autres de parler les petits dialectes, quelqu'un va arriver et dit « mais le français, ça ne sert à rien, il vaudrait mieux parler anglais ». Parce que l'anglais deviendra la langue internationale qui supplantera les autres. Et donc, on ne parlera plus français. Et il n'y a que les Français qui pensent que pour bien parler une langue, il ne faut qu'en parler qu'une. Non, il faut parler plusieurs langues. Demain, l'homme moderne, le citoyen qui sera inséré dans son pays, dans la mondialisation, c'est celui qui parlera anglais, parlera français, mais qui parlera aussi la langue de sa région.
Vous avez parlé dans cette première partie d'émission, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est ce réchauffement climatique qui touche énormément cette région méridionale. Vous avez aussi évoqué l'Espagne. Nous évoquons aussi la langue qui se perd, la langue de cette région. Est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi de cette région-là que vous aimeriez revaloriser, redynamiser, mettre
Oui, on va parler de la cuisine, parce que...
La cuisine, la gastronomie.
On va parler de la gastronomie, parce que... je ne vais pas exagérer. La cuisine méditerranéenne, qui est à base essentiellement de fruits, de légumes, de fibres, d'huile d'olive, avec un très faible apport de viande et de produits laitiers, est la meilleure au monde pour la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est scientifique, que ce soit en espérance de vie, en longévité. Les gens qui mangent le repas crétois ou le repas méditerranéen vivent plus longtemps, en meilleure santé, sont moins atteints par les maladies cardiovasculaires et moins d'obésité. Il y a moins d'obésité, de maladies cardiovasculaires chez nous que dans le nord de la France. Cette cuisine, elle a des énormes avantages sur le plan de la santé, mais aussi... sur le plan organoleptique, du goût, c'est la meilleure cuisine du monde. C'est la cuisine la plus colorée, parce que c'est un mélange de couleurs incroyables, que ce soit au niveau des desserts, des entrées, des plats. On a ce savant dosage entre les fruits, les légumes, les pâtes, les céréales, les produits de la mer, quelques apports de la charcuterie, quelques apports des contreforts montagneux, que ce soit des Pyrénées, du Massif central ou des Alpes. Et cette cuisine méditerranéenne que nous envie le monde entier, qui est très cuisinée à Londres, en Scandinavie ou chez les bobos de New York, ben elle disparaît chez nous.
Ouais.
Elle disparaît chez nous sur une pression du Nord, là aussi. Parce que là, malheureusement, on nous impose une civilisation à l'américaine, en fait. On nous impose un cinéma américain, une musique américaine, des séries américaines et aussi une cuisine américaine. Et je ne vais pas citer les chaînes de fast-food pour ne pas leur faire de publicité. Et cela tue la cuisine méditerranéenne. Et là, il faut que les gens se relèvent. Là, il y a une prise de conscience majeure qui doit être prise à la fois par les élus, les entreprises, mais les citoyens individuellement. Il faut que les citoyens individuellement rééduquent leurs enfants à la bonne cuisine méditerranéenne. Il faut que dans les entreprises publiques ou les organismes publics, dans les cantines,
on ne serve que de la
cuisine méditerranéenne en se servant, mais ce n'est pas une plaisanterie aux producteurs locaux. Et certaines entreprises devraient imposer ça. Sinon,
Des communes le font déjà.
Sinon, au-delà de l'aspect alimentaire, mais qui est essentiel selon moi, on tue aussi les petits producteurs locaux et on laisse filer nos vergers, nos jardins, nos amandiers, nos pêchers méditerranéens. Et on est obligé d'aller chercher je ne sais où, du Chili, en Chine ou en Turquie.
Produisons localement.
Oui.
Et chacun...
Pour protéger aussi l'environnement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la déprise agricole, c'est-à-dire la mise en friche des terrains, enlaidit les paysages méditerranéens. Parce que le paysage méditerranéen, mais le paysage breton ou le paysage chilien, là, le paysage, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi ce que l'on croit. Et le paysage est la symbiose unique, historique, fragile entre la culture au sens de l'homme, de la civilisation, mais aussi de la nature. Et ces paysages, il faut les préserver.
Un grand merci, Philippe Wilmbus, d'être venu sur nos ondes nous parler de ce livre, Midi semeur, sauvons-le. Un livre qui dit plus, à mon avis, votre amour passionné de cette région du Midi que ne le suggère la couverture. Ce rouge pétant de la couverture montre un combat. Vous avez un combat, mais vous avez aussi une grande passion, un grand amour pour ce Midi. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.